faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Mais laisse-toi chez une gueule d'atmosphère.
Voilà, musique.
Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot.
Là, il a marqué un point.
C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Il est comme ça, jamais.
À l'affiche ce soir, c'est l'histoire d'un sport aux origines antiques, un sport de super-héros. En deux jours, il faut avaler 4 courses, 3 lancers et 3 sauts, 10 épreuves d'athlétisme pour être le roi des champions. Ce soir, c'est donc l'histoire du décathlon. Entre le disque, le poids et la perche, voici la 24e étape de notre grand safari au pays de la culture de masse.
Tu nous prends pour des bourriques ?
Oui, ça part.
Ça, c'est un excellent... Burger.
Winter is coming.
Aux origines, il y avait le pentathlon. 5 épreuves pour devenir l'athlète le plus complet durant les Jeux Olympiques sous l'Antiquité. Une gloire éternelle promise aux vainqueurs. Et bien pour s'inscrire dans cette tradition ancestrale, au tout début du XXe siècle, on a inventé un sport hors norme de 10 épreuves, donc le décathlon, aujourd'hui considéré comme le sport des sports. Et bien ce soir, pour ausculter le décathlon, ils seront deux invités au micro d'Inter. Tout d'abord, il est recordman du monde de la discipline. On dit de lui qu'il sera l'un des grands athlètes de ce siècle. Il se fait rare dans les médias, mais dans quelques minutes, Kevin Mayer sera avec nous. Plaisir de l'accueillir. Et puis à ses côtés, grand reporter à l'équipe, spécialiste de l'athlétisme et du décathlon, Nicolas Herbelot sera là, lui aussi, autour de cette table. Mais juste avant le sport des sports, nous accueillerons l'agent des agents, le Dominique Besnéard. Et au programme ce soir, il nous causera de Charlotte Rampling, actrice honorée cette semaine au Festival de Berlin. Et enfin, juste avant 19h, bien sûr, le Give Me Five, signé Joy Raffin. Salut Joy.
Bonsoir Colin, bonsoir à tous.
Alors le programme ce soir.
Eh bien, en hommage à Kevin Mayer, l'empire de la perfection. Bon, là, c'est du tennis, hein, mais c'est pareil, quoi. C'est parfait.
Très bien, à tout à l'heure. Surtout, n'ayez pas peur et soyez les bienvenus dans l'œil du tigre.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, ce soir, on commence avec le match de la semaine. C'était mardi soir à Old Trafford, le stade mythique de Manchester United, où le Paris Saint-Germain est allé s'imposer en patron. 2-0, une prouesse. Voici le flashback.
Paris sera toujours Paris.
On entendait que, à la fin du match, les 3700 supporters du Paris Saint-Germain qui avaient fait le déplacement hier soir à Old Trafford.
Bien joué. Bien joué.
Ils pouvaient chanter, se congratuler.
Je crois qu'on a démontré que si on joue comme ça, avec la mentalité juste d'être bien placé, costaud défensivement, On peut faire des grandes choses.
Bien que privé de Neymar et de Cavani, le PSG a réalisé le coup parfait hier soir lors de ce 8e de finale aller à Manchester United.
Oh, ça c'est du beau boulot.
La première victoire de l'histoire d'un club français à Old Trafford. 2-0 grâce à des buts de Kimpembe et Mbappé en début de seconde période.
Passement de jambes, crochet à gauche, à droite, Kylian Mbappé. Accélération, virgule, petit pont, frappe, Kylian Mbappé.
C'est bien, parfait, c'est la qualif, c'est gagné. Je pense que voilà, on est content. On va continuer à bien se préparer parce que je pense que les 20 dernières minutes, on avait un petit creux physique. Et on va se préparer pendant 3 semaines et on va arriver au match retour et être prêt et assurer la qualif.
Oh, dis donc, le cador, il fait ce qu'il veut.
Et franchement, qui d'autre que Kylian Mbappé peut se targuer d'avoir une chanson à sa gloire en Bulgare ?
Wesh, alors on dit bravo à Paris, mais on dit aussi attention, il y a un match retour et on sait de quoi Paris parfois est capable, ou pas capable. Rendez-vous le 6 mars, pour l'heure voici le coach des actrices, voici le Dominique Besnéard.
C'est fou la vie. Hein.
Ce soir, Dominique, c'est une actrice fraîchement récompensée.
Oui, c'était jeudi. Charlotte Rampling a reçu un ours d'or honorifique au Festival de Berlin pour l'ensemble de sa carrière. Notre vedette de l'écran de ce soir avait déjà remporté l'Ours d'argent à Berlin pour sa prestation dans 45 ans d'Andrew Haight. C'est pour ce même rôle qu'elle a également décroché sa première nomination à l'Oscar de la meilleure actrice en 2015.
Et alors, rappelons d'abord, Dominique, qu'elle est anglaise.
Bien sûr, elle est anglaise. C'est la fille d'un colonel de l'armée britannique. Et Charlotte a 9 ans lorsque son père est affecté à Fontainebleau dans les forces de l'OTAN. Avec sa sœur Sarah, elle fréquente l'école communale et apprend le français. 3 ans plus tard, revenue en Angleterre, Charlotte et sa sœur montent un spectacle de chansons qui les conduit à travers toute l'Angleterre. À 17 ans, elle part ensuite pour l'Espagne avec un groupe de jeunes musiciens canadiens.
Mais elle revient vite au Royaume-Uni.
Oui, une brève expérience de cover girl précède son premier rôle au cinéma dans Le Knack ou Comment la voir, le titre idéal, de Richard Lester en 1964. C'est l'époque du Swingin' London et Charlotte y débute aux côtés de novices aussi sexy que Jacqueline Bisset et Jane Birkin. Cela dit, sa carrière est brutalement interrompue par le décès de sa sœur. Pour surmonter son chagrin, Charlotte s'éloigne des écrans pendant 1 an et s'exile en Asie pour méditer.
Et alors à son retour, Rampling s'installe en Italie.
Et fait sa première rencontre marquante, celle de Luchino Visconti. Le grand cinéaste la dirige dans les damnés en 1969 et joue les Pygmalions. Je vais vous apprendre ce que c'est qu'être comédienne, parce que vous en êtes une, mais vous ne le réalisez absolument pas. Je vais vous habiller, vous maquiller, tout ce que vous avez à me donner, c'est ce qu'il y a derrière vos yeux. Ah, ces superbes yeux verts qui confèrent à son regard une expression énigmatique. Ils l'ont prédisposé à incarner des héroïnes troubles, voire perverses. D'une beauté presque magique dans l'extraordinaire et mythique Zardoz de John Borman, elle est également prodigieuse dans Portier de nuit de Liliana Cavani. Dans ce film au succès mondial, Charlotte exprime avec une délicatesse paradoxale l'étrange passion amoureuse qui unit son personnage de petite juive à l'officier nazi qui l'avait assouvi dans un camp de concentration.
Et à travers ses rôles, Dominique, elle explore des zones troubles.
Je choisissais mes rôles pour voir jusqu'où j'étais capable d'aller, dit-elle. Comme dans Max Mon Amour, d'Oshima, où elle s'éprend d'un chimpanzé, je l'ai dit. Les Américains ne sont pas insensibles à son audace et à son charme énigmatique. Elle est ainsi dirigée par Woody Allen et Sidney Lumet. Vivant en France à la fin des années 70, elle tourne un taxi mauve d'Yves Boisset, On ne meurt que deux fois de Jacques Deray. Moins présente sur les écrans dans les années 90, elle rencontre alors des soucis de dépression qu'elle ne cache pas au public. C'était important pour moi de dire que quand on est dans cet état-là, on est dans une telle situation d'exil que parler aux autres vous aide.
Jean, tu es là ?
Et dans les années 2000, Dominique marque son retour au cinéma.
Sous le sable de François Ozon lui offre ainsi un comeback éclatant. Et c'est au moment même où un César d'honneur vient de récompenser l'ensemble de sa carrière en 2001 qu'elle redevient une actrice de premier plan et pas seulement en France. Charlotte Rampling rayonne désormais dans toute l'Europe et enchaîne film sur film, dans toutes les langues, dans tous les registres, toujours... Elle garde ce mystère inaltérable qui fait d'elle une icône exaltante et non conformiste du cinéma.
Eh bien, voici Charlotte Rampling, autodidacte.
Je suis un peu, on peut dire, autodidacte dans ce métier, mais je voulais un peu l'être aussi. Je voulais, en fait, mettre une propre marque. Je voulais m'identifier vraiment dans le cinéma. Ça veut dire que les rôles que je faisais, que je les rendais uniques à moi. C'est une façon de me préserver et de faire ce métier pas comme un acting, pas comme un jeu. de semblance aux yeux de un jeu de reconstruction, mais c'est que c'était un vrai construction que je faisais. Parce que ça m'amusait, et j'ai une rébellion qui est très forte en moi, qui est très bonne, qui c'est ça qui m'a fait que j'ai survécu comme j'ai survécu ma vie, avec les différentes choses qui peuvent arriver. Et j'ai toujours voulu garder ça, parce que c'est ça mon moteur.
Charlotte Rampling, qui a donc eu un ours d'or d'honneur à Berlin cette semaine. Et tu aurais pu nous parler de son père, Dominique, dans cette émission sur
le
sport.
C'est vous qui êtes spécialiste du sport, oui, cher ami.
Il est champion olympique du 4x400 mètres à Berlin en 1936. Le père de Charlotte Rampling, champion olympique. C'est pas rien.
Ouais, c'est pas rien.
C'est magnifique.
Mais Charlotte, c'est vraiment une femme très secrète. Du reste, ça se voit dans ses rôles. Et surtout, je trouve qu'avec le temps, elle ne vieillit pas. On sait que beaucoup d'actrices font des petits trucs au visage, et elle a toujours ses paupières magnifiques et ce regard ensorcelant. Mais c'est une femme, en plus c'est une femme vraiment exceptionnelle.
Merci beaucoup Dominique Besnéard. Voici maintenant l'histoire du dimanche soir. Il est né en 1992 à Argenteuil, dans le Val d'Oise. À Montpellier, on le connaît depuis longtemps, c'est là qu'il a suivi ses études de mesures physiques à l'IUT. Celles et ceux qui aiment le sport connaissent aussi son nom, car son palmarès de décathlonien compte déjà une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 et un titre de champion du monde décroché à Londres en 2017. Et puis, est arrivé ce week-end de septembre 2018, deux jours qui vous scellent un destin et vous font entrer dans l'histoire du sport français.
Et on retient ce nom, Kevin Mayer.
Il est français, il a 26 ans et il a pulvérisé hier le recon du monde du décathlon au Décastar de Talence. Un exploit suivi par Romain Desec de France Bleu Gironde.
Pulvériser le record du monde à Talence, encore inenvisageable il y a quelques mois pour Kevin Mayer. C'était sans compter les aléas de sa discipline et la désillusion des championnats d'Europe de Berlin.
Faire le record du monde à Talence, c'est pour moi le plus beau des rêves que je viens d'accomplir. Je leur demandais le silence total, j'entendais les mouches autour de moi. Comment vous voulez qu'on fasse pas de record du monde dans cette ambiance-là? C'était juste électrique ce week-end.
Le stade chauffé à blanc à l'arrivée du 1500 mètres. 13 000 personnes réunies hier, du jamais vu. Pour le Décastar, c'est un formidable retentissement. Et dans ce public, il y avait Augustin et Colline, deux espoirs du club girondin.
C'est le stade où on s'entraîne tous les jours. On vomit là, dans le coin, à la fin des séances. Et là, il y a un record du monde, quoi. C'est fantastique.
Ça donne envie de se bouger.
Ouais, de continuer, ouais. De se dépasser après, oui. Toute la saison, quoi.
Et peut-être, un jour, suivre les pas d'un certain Kevin Mayer, recordman du monde.
Kevin Mayer, bonsoir.
Bonsoir.
Et soyez le bienvenu. Vous avez 26 ans, Kevin. Ce record du monde en septembre dernier vous a fait changer de dimension, incontestablement. Comment vous vivez ce changement de statut, Kevin Mayer ?
Bah, je le vis plutôt bien. Après, j'ai été vice-champion olympique et champion du monde avant, donc on va dire que j'avais un peu ce statut qui a été un peu multiplié par deux après le record du monde, mais on va dire que je commence à assumer ce rôle d'ambassadeur du décathlon.
Absolument, et vous l'assumez plutôt bien, on va le voir tout au long de cette interview. Nicolas Bello, bonsoir.
Bonsoir.
On vous connaît bien ici, vous êtes grand reporter à l'équipe et à l'équipe magazine. Pour bien comprendre, Nicolas, l'enjeu de ce record de septembre dernier, c'est que ce sport, le décathlon, c'est un sport très particulier. Comment est-ce qu'on pourrait résumer ce sport, Nicolas ?
Déca comme 10.
Voilà, exactement.
10 épreuves. C'est la discipline absolue de l'athlétisme. Or, l'athlétisme est le sport de tous les sports. C'est la mère de tous les sports, sauter, courir, lancer. Donc, réussir sur décathlon, c'est être le sportif le plus complet possible au monde.
Alors, il y a donc 4 courses, 3 sauts, 3 lancers, hein, pour qu'on soit bien d'accord et que tout le monde comprenne ce qu'est le décathlon.
Sur 2 jours.
Sur 2 jours, exactement, c'est important, ça aussi. Kevin, comment on devient décathlonien ? Comment est-ce que le décathlon entre dans la vie ? C'est pas évident, c'est le sport des sports, comme dit Nicolas Herbelot, mais devenir champion olympique, ou ça, je vous le souhaite en tout cas, mais ou être recordman du monde du décathlon, c'est pas évident. Comment on devient décathlonien, Kevin ?
Moi, je pense qu'il faut avoir un peu de chance, il faut avoir des formateurs dans les clubs qui soient là et qui soient passionnés des épreuves combinées pour le faire découvrir aux gens. En général, quand il y a ces personnages dans les clubs, on arrive à créer une belle structure d'épreuves combinées parce que quand on a fait un décathlon, en général, on accroche vite et on est vite passionné de cette épreuve. Elle est très difficile, mais en même temps très passionnante. Et en matière d'accomplissement de soi-même, c'est vraiment grisant.
Mais Kevin, quand on est adolescent, est-ce qu'on se dit « je vais devenir décathlonien » ? Comment on commence par la course, le saut, le lancer ? Est-ce qu'on a des aptitudes à différents sports ? Comment est-ce qu'on choisit ? On pourrait très bien se dire « bah tiens,
je m'en sors bien en javelot, je vais devenir champion olympique de javelot. Non, je vais devenir décathlonien. Comment ça s'opère, cette machine-là?
Alors, il faut savoir que dans les écoles d'athlétisme, quand on est jeune, on est tous décathloniens. On commence tous par essayer toutes les épreuves.
D'accord.
C'est que ensuite, lorsqu'on s'accroche à une épreuve en particulier, qu'on se sent plus fort ou qu'on a envie tout simplement de faire que celle-ci, qu'on se spécialise, mais au début... Il n'y a pas de compétition en dessous de minime, où il n'y a pas de triathlon, où ils font une course, un saut, un lancer. Tout le monde fait des épreuves combinées. On devient décathlonien tout simplement, je pense, en n'arrivant pas à choisir une seule épreuve et
donc
en
c'est un non-choix.
Toutes les faire. C'est un non-choix et je pense que c'est fait pour les personnes un peu turbulentes qui s'ennuient un peu à pratiquer qu'une seule chose et qui ont envie d'approfondir dans pas mal d'épreuves.
Et oui, on sait que ça fait partie de votre personnalité, vous êtes insatiable, paraît-il. Nicolas Herbelot, ce qui est assez étrange, c'est que c'est le sport des sports, c'est un sport de super-héros, c'est un sport quasiment antique, enfin la pratique, le pentathlon évidemment, vient de là. Et pourtant, alors Kevin Mayer est en train de devenir une star, mais il n'y a pas d'immense star du décathlon. On connaît tous Carl Lewis pour la course ou Bobka pour le saut à la perche. Il n'y a pas d'immense vedette mondiale du décathlon. Comment ça se fait?
Parce que le décathlon dure 2 jours, donc ça n'a pas l'évidence d'un 100 mètres qui dure 10 secondes. Ça suppose que les spectateurs soient un peu patients, mais en réalité, ceux qui se prêtent à l'exercice de suivre le décathlon ne peuvent plus décrocher. Alors, ils sont un peu hors circuit aussi. Les grandes compétitions de décathlon au long de l'année ont leur meeting à eux. Mais allez-y une fois, vous verrez, c'est absolument incroyable d'être dans un stade où il n'y a que du décathlon. Et on se laisse forcément prendre par le décathlon. Pour le très grand public, c'est plus compliqué, effectivement. Parce que pendant que se passe un décathlon, il va se passer à peu près 30 autres épreuves. Donc les gens ne savent pas toujours où regarder. Et c'est un peu plus compliqué. Mais ce sont des champions extraordinaires. Ils concourent dans un état d'esprit extraordinaire, parce que c'est une vraie famille. Et le public accroche à chaque fois.
Kevin Mayer, est-ce que vous avez conscience de participer à un sport qui fait évidemment écho à des Jeux Olympiques très anciens? Je l'évoquais à l'instant, mais c'est vrai que ça a été inventé au début du XXe siècle, le décathlon, pour faire écho au pentathlon, qui était le grand sport des Jeux Olympiques antiques. Est-ce qu'on a conscience qu'on est une sorte de sportif universel et que finalement ce qu'on fait appartient à une forme d'histoire de l'humanité, le sport des sports, comme dit Nicolas Herbelot?
Ah, bien sûr. Et c'est très très inspirant en fait. On parle tous des Jeux Olympiques de l'Antiquité, quand ils faisaient la course, qu'ils faisaient le lancer, qu'ils faisaient le saut et qu'ils finissaient par cette fameuse lutte où ça prônait le vainqueur. Et faire partie de cette histoire différemment, mais quand même, et être un peu les épreuves combinées modernes, c'est quelque chose de très inspirant et c'est même quelque chose qu'on porte et qu'on essaye de représenter fièrement.
Est-ce que vous aviez des modèles quand vous étiez jeune? Moi, je ne connaissais pas trop le décathlon. Je suis allé voir, il y a un Français qui s'appelle Christian Plazia, je crois, dans les années 80, qui est un grand décathlonien. Mais est-ce que vous, Kevin Mayer, à 26 ans, est-ce que vous aviez des modèles justement de décathloniens quand vous avez commencé à cette discipline?
Bien sûr. Celui qui m'a donné vraiment envie de faire du sport de haut niveau dans le décathlon, c'est Romain Barras, où je vois toujours son dernier lancer de javelot aux Jeux Olympiques de Pékin, où il bat son record. Et je le vois arriver à la fin du 1500 mètres et il va avoir Nelson Montfort et je le vois pleurer alors qu'il est cinquième. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, ce sport, il y a vraiment quelque chose de différent que les autres. Et j'ai approfondi là-dedans et je me suis rendu compte de toute l'étendue de ce qu'on pouvait apprendre dans le décathlon. Ça sort totalement de la dimension du sport.
Nicolas, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, deux choses. D'abord, il y a une grande école en France du décathlon assez historique. Vous parlez de Christian Plazia, il y a eu Alain Blondel, Romain Barras. Alain Blondel a été champion d'Europe, Romain Barras aussi, Christian Plazia, recordman du monde en salle, si ma mémoire est bonne.
Oui.
Et puis, par rapport aux Jeux antiques, effectivement, c'est l'homme complet dans tout ce qui représente le sportif. D'ailleurs, athlète, c'est le terme pour sportif dans la langue anglo-saxonne. Il faisait, à l'époque, on construisait plus un guerrier, un homme d'armes, d'où la présence de la lutte dans les épreuves du pentathlon. Et aujourd'hui, le décathlonien est vraiment l'athlète le plus complet qui puisse exister.
Parmi les décathloniens du XXe siècle, Nicolas Herbelot, j'ai été regarder un peu et j'ai découvert un type assez étrange. Il s'appelle Glenn Morris, qui est le champion olympique du décathlon en 1936 à Berlin. C'est un modeste garçon de ferme du Colorado. Est-ce qu'on peut en dire un mot, Nicolas? Qui était ce Glenn Morris?
Oui, c'était un athlète doué. Il faisait d'ailleurs, comme toujours en université aux États-Unis, plusieurs sports. Mais il n'a fait du décathlon qu'après être sorti du cursus. Je crois qu'il vendait des voitures.
Oui.
Il est sorti du système universitaire en 34. En 35, il est allé au Kansas Relays, qui sont une compétition fameuse vraiment aux États-Unis, où pendant 3 jours, de tous les âges, de toutes les facultés et les lycées, on pratique tous les sports. Et là, il a découvert le décathlon. Il a vu pour la première fois un décathlon. Il a dit, l'année prochaine, je reviens, je le fais. Et L'année d'après, il revient, il le fait et il fait les minima pour les Jeux de Berlin. Et c'est comme ça qu'il arrive aux Jeux de Berlin, c'est seulement son troisième décathlon. Et il le remporte haut la main, sous les yeux d'Hitler, sous la caméra de Leni Riefenstahl, avec qui il va avoir une affaire pendant ces Jeux de Berlin.
Il va être l'amant de Leni Riefenstahl. Ouais. Et il va être aussi un des héros du film de propagande de Les Dieux du Stade.
Les Dieux du Stade, du coup, qu'elle a filmé.
Olympia, ouais. il est très présent dans le film. Et la fin est un peu tragique parce qu'il va faire la guerre dans le Pacifique, la Seconde Guerre mondiale. Il va rentrer, il va sombrer un peu dans l'alcoolisme, beaucoup. Il va terminer SDF, seul.
Oui,
destin assez incroyable.
Entre les deux, il tente une carrière hollywoodienne.
Exact.
Il interprète une fois Tarzan.
Mais
comme beaucoup de sportifs à l'époque, Weissmuller a laissé son nom un peu plus attaché à Tarzan, mais il a fait un film, enfin il était très piètre acteur, ce qui d'ailleurs lui donne raison de ne pas avoir, parce que Hitler lui avait demandé de rester en Allemagne pour jouer dans des films
de propagande,
des films de sport,
parce qu'il avait un corps parfait,
voilà. Et lui
corps
n'avait
antique.
Pas voulu. Il n'avait pas voulu. Alors, est-ce que c'est parce que Riefenstahl l'avait jeté entre-temps ou pas? Elle a raconté quand même cette histoire.
Dans ses mémoires.
Elle a dit qu'elle s'était séparée de lui parce qu'un graphologue lui avait dit que ça l'inspirait pas l'écriture.
Qu'il était bizarre, qu'elle avait peur,
etc.
Et c'était un peu
Mais
étrange.
Il paraît, il aurait dit sur son lit de mort qu'il regrettait depuis de ne pas avoir fait sa vie avec Leni Riefenstahl.
D'accord. Kevin, d'ailleurs, on évoquait le corps justement antique, qui pouvait fasciner aussi parfois une politique extrême, mais c'est vrai que ce corps-là du décathlonien, il est particulier, parce qu'il faut à la fois, qu'il ne soit pas trop lourd, parce qu'il faut pouvoir le faire sauter, ce corps. En même temps, il faut être musculeux et fort pour lancer, pour courir. C'est un corps tout à fait équilibré entre la force et la légèreté. C'est pas évident quand même à façonner, à muscler en fait ce corps.
On a des épreuves qu'on dit contradictoires. C'est-à-dire que si on en travaille une, on régresse sur l'autre. Il y a 9 épreuves qui sont de la puissance et il y a une épreuve qui est vraiment de la résistance.
C'est quoi la résistance?
C'est le 1500 mètres à la fin.
D'accord.
Et c'est ce qu'il faut pour moi un peu négliger pour progresser dans les 9 autres épreuves, puisque progresser dans le 1500 mètres, c'est 9 fois moins efficace que de progresser dans les 9 autres.
Mais comment on s'entraîne, Kevin Mayer, au décathlon? Est-ce qu'on fait tout le temps? J'imagine que non. On s'entraîne pas à tout le temps. Ça doit être très fragmenté.
Il faut faire très attention, en fait. Le plus dur, en fait, c'est la transition entre les épreuves. Quand on fait un 110 mètres haies, lancer le disque ensuite, c'est pas du tout pareil. On peut être perdu techniquement, c'est ce qu'on travaille, en fait, à l'entraînement. Quand on fait un entraînement, on va faire une séance de haies et ensuite on va passer au disque et on essaye, de retrouver très vite nos sensations puisque c'est ça la transition qui est très importante. Nous, les décathloniens, il faut qu'on fasse 10 épreuves parfaites pour faire un gros total. Donc, on peut pas se permettre de faire une épreuve à notre corps et l'autre épreuve totalement gâchée. Donc c'est ça qu'on travaille, en fait, c'est la régularité dans chaque épreuve.
Nicolas Barlow, je reviens 2 secondes au corps. On a parlé des Jeux antiques, de l'Antiquité, mais c'est aussi le corps de la Renaissance, finalement, ce corps de l'athlète du décathlonien. C'est l'homme de Vitruve, de Vinci. C'est vrai qu'il a des proportions impeccables, tout le monde le dit, je vais le dire devant lui, mais que Mayer a un corps de sculpture grecque, en fait. C'est un corps important, le corps du décathlonien.
C'est marrant que vous parliez de l'homme de Vitruve, parce que l'année dernière, pour l'équipe magazine, on avait travaillé sur 10 facettes de Kevin Mayer. Il y en avait une, c'était le corps. Et avec son préparateur physique, Jérôme Simian, justement, je voulais, moi, qu'on fasse... J'écarte les bras comme l'homme de Vitruve, c'est pas très radiophonique.
On voulait
décortiquer, vous voyez, les mains, les bras, les épaules. Et Jérôme Simian nous avait dit, m'avait dit, non, c'est impossible de décortiquer muscle par muscle, c'est un tout. Son corps est un tout, je le considère comme un tout, c'est une chaîne. On peut pas travailler seulement, en gros, on court aussi avec les épaules et on lance aussi avec les jambes, voilà, pour faire court.
Évidemment.
Et en ce sens-là, et là il était retombé sur ses pattes, il m'avait dit, là on rejoint l'érudit de la Renaissance et donc Léonard de Vinci et son homme de Vitruve.
Nicolas, vous connaissez bien le monde de l'athlétisme et il y a une fois, il n'y a pas si longtemps, vous êtes venu dans cette émission parler du Usain Bolt et vous m'avez dit, alors le problème de l'athlétisme en ce moment, c'est qu'on est sur une fin de séquence sur Usain Bolt et que l'athlétisme a besoin de charismatique pour pouvoir susciter l'intérêt. Est-ce que Kevin Mayer, vous pensez, a peut-être l'opportunité avec son charisme et ses records du monde de venir remplir l'espace qui est libre là?
Oui, avec cette différence liée à sa pratique encore
et
une
oui.
fois, c'est-à-dire qu'il fait un décathlon si tout se passe bien, 2 si ça se passe mal au premier par an.
Un par an ou 2 par an, c'est très rare.
Et donc sa présence sur la scène médiatique est malheureusement pas assez fréquente. Alors Kevin, je sais pas comment tu peux faire. Pour exister tout au long de l'année, je sais que tu as des idées.
J'ai énormément d'idées.
Mais ce qui est assez fascinant, Kevin, c'est que effectivement, quand on regarde vos stats dans les 10 sports, vous flirtez parfois avec des gens qui sont en individuel. Vous pourriez très bien parfois concourir dans certaines épreuves avec l'excellence, c'est-à-dire de chaque discipline.
Oui, c'est ce que je commence à faire.
Ce que tu as fait lors de ton record du monde, t'aurait permis d'être dans le top 5 de 6 épreuves des championnats de France.
Incroyable quand même. Ça vous tente ça ou pas? Non.
J'aimerais créer un décathlon sur plusieurs événements, en fait, pour que les décathloniens puissent se préparer pour leur championnat et pas faire un décathlon en deux jours, mais c'est-à-dire trois épreuves dans un meeting, ensuite deux autres épreuves, et ainsi de suite. On fait quatre meetings et il y a un gagnant de la Diamond League.
Sur tout le circuit des grands meetings de l'été.
Voilà.
C'est une super idée.
Oui, d'accord.
Et c'est quelque chose à creuser. J'ai le contact de Diamond League. Malheureusement, quand on s'entraîne au décathlon, on n'a pas le temps de faire beaucoup d'autres choses. Donc, toutes ces choses à monter, à mettre en place sont très dures. Mais maintenant que j'ai record du monde, je me sens un peu l'ambassadeur de ce sport et j'aimerais bien lui apporter ce qu'il m'apporte. C'est-à-dire tout ce que je peux espérer dans la vie.
ni plus ni moins, et c'est ce qu'on vous souhaite, Kevin Mayer. On va continuer à parler de décathlon. Là, c'est l'heure de l'orchestre sur l'Inter, emmené ce soir par le Mathieu Chedi, d'un comeback en grande forme avec la moitié des Daft Punk, le Thomas Bangalter, Joie et Bonheur, le titre joué aujourd'hui, Super Chérie, Ainsi soit-il.
Le décathlon, c'est chiant, c'est dur, mais c'est juste extra grand, c'est fini.
Le décathlon est une épreuve qui combine 10 disciplines olympiques. Sur deux jours, Kevin Mayer a donc enchaîné saut en longueur, saut à la perche, lancé du poids, lancé du disque. Couru un 100 mètres, un 110 mètres et un 400 mètres.
Philippe Collin.
Sans oublier le lancer du javelot, le saut en hauteur, avant de courir un 1500 mètres.
Sur France Inter.
Au terme de ses 10 travaux, il bat le record de France, vieux de 26 ans, et ce, en toute décontraction.
Depuis ce record de France englouti
L'appétit de Kevin Mayer n'a cessé de croître et aujourd'hui, il détient le record du monde de décathlon, une prouesse. Cela dit, l'appétit de Kevin Mayer est insatiable et pratiquer 10 sports différents ne lui suffisait pas. Alors depuis peu, il s'est pris de passion pour un jeu de ballon et il y consacre même plusieurs heures par semaine, paraît-il.
Les prestigieux basketteurs noirs des Harlem Globetrotters sont revenus à Paris pour présenter au Palais des Sports leurs splendides culottes de soie rayées et aussi leurs 1001 tours de passe-passe. Opposés à l'équipe de Boston, les Noirs de Harlem font alterner les jonglages, les feintes sur place, avec de véritables passes et des descentes au panier où on retrouve un peu de classicisme. Puis le feu d'artifice recommence et la balle paraît se piquer au jeu et devenir complice. C'est proprement ébouriffant et mieux vaut pour le reporter rester bouche bée et attendre que le tableau d'affichage vienne faire le point.
Alors, Kevin Mayer, il paraît en effet que vous êtes pris de passion pour le basketball. Qu'est-ce que vous y trouvez dans ce sport de ballon ?
J'ai jamais, en fait, beaucoup pratiqué le basket et c'est vrai que j'ai commencé à regarder la saison régulière de NBA. Je me suis pris de passion pour ça parce que j'ai remarqué que, en fait, il y avait 10 000 façons de marquer. Je trouvais que c'était hyper riche en fait. On voyait un spectacle différent tous les soirs et puis cette manière de créer le show américain me plaisait énormément et c'est vrai que je me suis pris de passion. J'ai commencé à pratiquer. Je suis pas bon mais je m'éclate et ça me change tout simplement les idées des fois quand la piste me brûle un peu les pieds.
Eh oui. Et Nicolas Herbelot, je rappelle, vous êtes grand reporter donc à l'Équipe Magazine. Il y a quelques mois, vous avez consacré justement un portrait, on en parlait tout à l'heure, de Kevin Mayer. Là, je m'adresse à l'entraîneur qui pourrait poindre sous les yeux de Nicolas Herbelot. Ouf. Ça fait peur pour un entraîneur qu'un décathlonien joue au basket. Ouais. On risque la blessure quand même, non? Ça fait un petit peu flipper le staff.
Ça fait peur qu'un
perchiste
fasse de la moto, ça fait peur. Ça fait peur. Je crois qu'il faut surtout les laisser faire.
Et oui.
Parce que s'ils n'ont pas cette soupape de sécurité et que l'ennui s'insinue dans... Parce que c'est exigeant, hein. Il le dit pas, mais quand même, il faut apprendre 10 épreuves, il faut se développer dans 10 épreuves sans en négliger.
C'est très dur le décathlon.
C'est extrêmement contraignant, ça suppose un savoir en plus vraiment, il est bien bâti, mais il a aussi là-haut ce qu'il faut.
Là-haut, c'est la tête.
Et si on le laisse pas faire à côté des choses comme ça, alors il y a un minimum de risque, une entorse.
Ah oui, une cheville au basket, voilà. Ça peut vite partir.
En même temps, le basket développe plutôt bien le cardio. Mm-hmm. Moi, je l'ai vu faire des séances et il y en a besoin, notamment sur 1500. Donc, je pense que je sais que son coach, doit avoir peur un peu à chaque fois qu'il
a. Il a peur, ouais. Kevin, ou pas que vous fassiez du basket?
Ouais, il joue avec moi des fois quand sa condition physique lui permet.
Tout va bien.
C'est quand même non. C'est si on commence à penser comme ça, en fait, on s'arrête de vivre et c'est là qu'on se blesse. Donc oui, je prends des risques, bien sûr, il y a des blessures. Je dis pas que je me blesserai jamais au basket, c'est déjà arrivé que je me retourne à un pouce ou quoi. Mais j'ai la chance de pas jouer dans une équipe et que mes résultats ne touchent personne à part moi. Et si je dois me blesser un jour gravement au basket, j'en assumerai les conséquences, tout simplement.
Et Kevin Mayer, est-ce que le basket, c'est pas aussi un sport collectif? Quand on est décathlonien, on est aussi seul face à soi-même dans les épreuves. Est-ce que jouer au basket, c'est pas jouer aussi avec les autres et être leader d'une team, par exemple?
J'adore le sport d'équipe et c'est vrai que des fois, ça me manque un peu dans le sport individuel. Quoique au décathlon, je pense que c'est un des sports individuels où on retrouve le plus d'entraide entre les décathloniens. Je pense notamment à ce record du monde où, honnêtement, tous les décathloniens étaient là et ils m'ont encouragé tout le long, même si c'était mes adversaires. Donc,
ce qui est assez rare dans le sport.
Complètement, complètement. Mais dans ce sport où c'est très plaisant, mais aussi très difficile, c'est dans la difficulté en fait qu'on se rapproche des gens, même de nos adversaires. Et on s'entraide, on s'encourage, voilà, c'est ça, c'est de l'empathie. Et puis tout simplement, on a besoin d'interaction sociale, sinon on pète un câble.
Dans ce portrait de Nicolas Herbelot il y a quelques mois, on apprend aussi que vous avez plusieurs domaines de compétences ou de passions bien au-delà du décathlon. On apprend par exemple que vous êtes assez doué au piano. D'où ça vous vient ce don pour le piano et qu'est-ce que ça vous apporte le piano, Kevin Mayer?
Alors c'est pas un don.
Il paraît que vous jouez pas mal quand même. Hein
J'ai appris en fait le truc, c'est que j'ai appris juste à pianoter les touches par cœur, quoi, tout simplement, sans avoir l'oreille ou quoi. Des sons qui me plaisaient, j'ai passé 14 heures peut-être à les apprendre, et puis petit à petit, ça s'automatise et ça se fait comme ça, mais j'aimerais approfondir. J'ai un auteur que j'écoute depuis peu de temps, là, qui s'appelle Scylla, c'est un rappeur qui fait tous ses raps avec du piano derrière, qui m'a vachement remotivé à prendre des cours de piano.
Il paraît que je jouais très bien La La Land aussi.
La mélodie de la langue. Vous avez fait ça tout seul.
Ah, non, j'avais commencé à l'apprendre et c'était juste avant les championnats du monde de Londres et plus la compétition arrivait, plus j'abandonnais.
Oui, mais il paraît qu'en stage, enfin, ton coach m'a raconté en stage c'était non-stop
Et qu'il a bluffé tout le monde.
Parce qu'il a ça quand il, pour chacune de ses épreuves, mais je pense pour chaque activité en dehors de l'athlétisme, c'est quand même t'as tendance à presser le truc jusqu'au bout, quoi. Quand tu t'attaques à quelque chose, tu vas au fond.
Nicolas, ce qu'il sort de ce papier aussi, c'est qu'il incarne une sorte de sportif de l'avenir, j'ai envie de dire, qui va contre le cliché ou la caricature. Il a la tête et les jambes, ce Kevin Mayer. Et on voit bien dans ce papier qu'il est à la fois évidemment très fort dans ses disciplines, mais que c'est un garçon qui est dans son temps, connecté à son époque, qui lit des livres, qui s'intéresse au cinéma, qui fait du piano. Il est peut-être une sorte d'horizon aussi pour le sportif de demain.
Oui, mais je pense que c'est très lié à sa discipline, qui est totalement... désynchronisé du reste. On est dans un monde de plus en plus spécialisé et là on a une épreuve qui oblige justement à être très très ouvert et à tout envisager sous plein d'aspects différents, physiologiques, techniques, etc. Il pourrait parler diététique pendant des heures, Kevin. C'est tout ça est extrêmement exigeant et un esprit obtus ne pourrait pas y parvenir.
Kevin, parlons diététique. Dans le papier de Nicolas, on apprend des choses incroyables. C'est-à-dire que on pourrait penser que vous avez un régime totalement prévu, un peu drastique. Pas du tout. En fait, vous écoutez votre corps. C'est ce que vous racontez. Ça veut dire quoi, Kevin Mayer ?
Quand on mange le matin et qu'on a mal au bide toute la journée, ce serait bête de pas se dire que l'aliment nous convient. Mm-hmm. Donc, je fais attention à ça. Et après, j'ai fait des tests d'intolérance, plein de choses. L'athlétisme est tellement pointilleux que perdre 1% de masse grasse pour moi, c'est peut-être gagner à 10 centièmes au 100 mètres, donc j'y fais énormément attention. Et c'est là que je vais parler d'autre chose, c'est d'écologie, puisque ça rentre en compte. Une bonne santé, ça passe beaucoup par l'alimentation, mais par tout ce qu'on ingère, en fait. Et tout ce qu'on respire, tout ce que la peau absorbe. Et autant vous dire, ça devient de plus en plus gros. En ce moment, ça va pas bien.
Nicolas Arbelot, dans ce monde justement de très performatif, hein, où il faut peut-être toujours repousser les limites du résultat, il faut savoir être bon partout, savoir tout faire. Est-ce que finalement le décathlon n'a pas un avenir merveilleux ? Parce qu'ils sont des super-héros, ils sont presque des super-hommes en fait, à être bons dans les 10 disciplines.
Oui, moi je pense que c'est justement c'est sa particularité en fait sa richesse, quoi. C'est une discipline qui est tellement différente de toutes les autres par définition. Et elle est encore une fois pratiquée par des sportifs qui sont tellement du coup différents. Parce que le décathlon, si vous avez vu une fois une image d'athlétisme, ils finissent nécessairement par un tour d'honneur ensemble, quoi. C'est franchement, c'est poignant.
Hein. C'est poignant,
c'est
et
vraiment
rare.
Poignant. Hein. Ils sont au bout du rouleau, ils sont tous allés ensemble au bout du rouleau, qu'ils aient 1000 points de retard ou qu'ils soient en avance sur le record du monde. C'est hyper touchant de les voir tous détruits, tous ensemble, vraiment tous ensemble. Et en ce sens-là, ce sport véhicule effectivement, je pense, quelque chose d'assez rare et de précieux dans notre société.
Kevin, dans ce papier de l'équipe magazine, on apprend aussi que vous aimez la bande dessinée, notamment les mangas, et que vous lisez beaucoup Naruto. En quelques mots, qui est Naruto déjà, et qu'est-ce qu'il vous apporte Naruto? Qui est Naruto?
Alors Naruto, c'était un jeune enfant en fait qui a été vachement discrédité parce qu'il portait un démon en lui-même. En fait, c'est un démon qui avait tué énormément de gens dans son village. Je vais passer pour un énorme geek, mais je suis un énorme geek, donc j'assume. Et ensuite, tout simplement, il cherche à se surpasser, en fait, pour se faire accepter par tout le monde et à faire oublier qu'il a un démon en lui-même, mais justement à utiliser ce démon pour encore plus se bonifier par le temps. Et à chaque fois, il repousse ses limites dans chacun des combats qu'il fait, puisque c'est des combats ninja. Et j'aime beaucoup ça, puisque je m'identifie vachement au personnage en fait, parce que j'étais pas si fort que ça étant jeune. J'avais une très grosse capacité d'apprentissage, mais j'étais pas bon sprinter, j'étais pas bon sauteur en longueur ou à la perche, autant à la hauteur ça allait, mais j'étais pas bon lanceur, mais j'avais une capacité d'entraînement et à progresser très vite par la réflexion de ces disciplines.
Et est-ce que Naruto est une métaphore du sport, par exemple ?
Je pense. Le sport sert à se découvrir soi-même et à toujours aller repousser ses limites pour encore plus se découvrir dans les moments difficiles. Parce que j'ai toujours tendance à dire que si on vit pas de moments difficiles, en fait, on profite pas des moments qui sont plaisants à vivre. Et le décathlon, c'est ça. Il y a des moments extra, il y a des moments beaucoup plus difficiles. Je parlais du 1500 tout à l'heure. C'est vraiment le moment, moi, où je tremble avant et j'ai aucune envie de le faire. Et c'est dans ces moments difficiles qu'on se découvre et qu'on essaye de trouver des solutions pour avancer, pour progresser soi-même.
Aujourd'hui, Kevin, en cabine, il y a votre père qui vous accompagne. Il est là avec vous. Il vous regarde avec beaucoup de tendresse. Est-ce que vos parents étaient dans un univers sportif? Est-ce qu'ils viennent de là? Est-ce qu'ils viennent du sport, vos parents?
Oui, ils viennent du sport. Et enfin, ma mère a été professeure de sport.
D'accord.
En collège, et mon père est éducateur sportif, donc ça aide. Mais ce qui a toujours été bien dans mon éducation, c'est que mes parents m'ont toujours encouragé dans le sport, mais jamais poussé à faire un sport en particulier. Notamment, je faisais beaucoup de tennis quand j'étais petit, mais je prenais pas de plaisir et j'ai voulu arrêter du jour au lendemain. Ma mère étant tennisman depuis très longtemps, ça lui a rien fait. Et en fait, j'ai essayé tous les sports et ils m'ont toujours... Enfin, mon père se tapait, venait me chercher au lycée tous les soirs et m'amenait à l'athlétisme où c'était peut-être 25 minutes de route tous les soirs pour aller m'entraîner. Donc,
et du coup, décathlon, hein, les 10 sports. Hein, du coup,
oui, c'est un bon message à tous les parents.
Et oui, bien sûr.
Si votre enfant trouve pas un sport, qu'il en fasse 10.
Qu'il en fasse 10, voilà, exactement.
Mais pas que du décathlon. Là, j'aimerais bien parler du sport en général. Pour moi, le sport fédère énormément de valeurs qui seraient bon de retrouver dans notre société. Ça donnerait un petit coup de pouce.
Nicolas Herbelot, il vient de parler de ses parents, de son père qui venait le chercher à la fin du lycée. C'est vrai que dans tous les grands champions, il y a quand même ce rôle des parents qui font des sacrifices, qui accompagnent les gamins. Ouais. C'est vrai que c'est important de le rappeler, c'est aussi tout un entourage, c'est une histoire de famille, un champion qui naît.
Ah oui, oui, c'est très fréquemment le cas. Il pourrait aussi parler de ses frères. Je pense que toutes ces interactions-là, ou alors il faut vraiment avoir une chance incroyable avec par le biais d'un professeur au collège, un professeur de sport ou des camarades de classe qui vont accompagner. Mais c'est vrai que la cellule familiale, c'est la première et normalement c'est celle qui donne ce premier accès au sport et au goût du sport.
Il faut bien faire attention entre des parents qui veulent que son enfant devienne champion et des parents qui veulent juste que l'enfant s'épanouisse dans la vie et qui lui laisse choisir un sport parce que l'enfant a envie de faire du sport. Et par ce chemin-là, je pense que l'enfant deviendra beaucoup plus vite champion.
Kevin, d'ailleurs, pour terminer, votre prochain horizon, enfin, gros horizon, on va dire, c'est Tokyo 2020, les Jeux Olympiques. On vous souhaite d'être champion olympique, évidemment. Et je me posais la question, vu ce que vous êtes aujourd'hui, est-ce que finalement votre adversaire le plus redoutable, ce ne sera pas vous-même? Dans le sens où on attend tellement de vous, il y a une telle pression, est-ce que ce n'est pas vous-même qui êtes le plus grand adversaire de Kevin Mayer?
J'ai toujours dit qu'il fallait plus en attendre de soi-même que les autres, donc honnêtement, j'en attends tellement de moi-même que peu importe ce que les autres attendront de moi, ce sera jamais aussi stressant que ce que je m'impose, donc ça va. Pour l'instant, je crois pas que ça me pèsera énormément.
Bon, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite d'être champion olympique à Tokyo en 2020. Merci à vous deux d'être venus ce soir pour évoquer ce sport de super-héros, hein, le décathlon. Longue vie à votre parcours, Kevin Mayer. Et je précise aussi que vous pouvez retrouver l'excellente plume de Nicolas Herbelot, bien sûr, très régulièrement dans l'équipe et dans l'équipe magazine. Ne quittez pas l'écoute, car voici maintenant le Give Me Five de Joy Raffin.
L'œil du tigre.
Rebonsoir Joy.
Rebonsoir Colin, rebonsoir à tous.
Alors que trouve-t-on dans ce Give Me Five ce soir?
Eh bien ce soir un Give Me Five 100% McEnroe, tennis et cinéma, parce qu'il me fallait au moins toute une chronique pour en parler. Un Give Me Five consacré au documentaire L'Empire de la Perfection. Alors hommage à Kevin Mayer, hein. Enfin à Nicolas aussi, hein, je vais pas être méchante. Donc le film donc L'Empire de la Perfection qui sort en DVD cette semaine.
Et oui, L'Empire de la Perfection, un film de Julien Faro avec la voix de Mathieu Amalric, sorti au cinéma en juillet dernier et qui s'ouvre sur ces mots de Godard que j'adore, le cinéma ment, pas le sport.
Voilà, donc là vous l'avez compris, l'objectif de Julien Faro, c'est d'explorer le sport grâce au cinéma. À moins qu'en fait, son film démontre que ce soit l'inverse. Jusque dans les années 70, la Fédération française de tennis produisait ce qu'on appelait alors des films d'instruction, pour apprendre aux joueurs à maîtriser leur sport. Donc là, ça donnait en gros des joueurs de tennis dans des positions figées, qui répétaient leurs pas et exécutaient leurs gestes dans le vide. Ou alors aussi des petites vidéos du genre « Comment on compte les points au tennis ?»
On compte en points, jeu, set et match. Le premier point se dit 15, le deuxième 30, le troisième 40 et le quatrième jeu.
Voilà, hein? Alors comme nous, un homme, Gilles de Kermadec, ancien joueur de tennis, premier directeur technique national de la FFT, la Fédération de tennis, fils aussi d'un arbitre international, trouvait tout ça un peu ridicule, on va pas se mentir, et surtout pas très productif, et il a révolutionné le genre de ses films dits d'instruction.
Et oui, très vite donc, de Kermadec, pionnier dans l'idée de filmer le tennis pour en comprendre la technicité, se rend compte que ses films de la Fédération sont inefficaces, et lui, il change de méthode.
Voilà, et alors c'est là que le début le film l'empire de la perfection. Dès 1977, Gilles de Kermadec réalise une série de portraits dans lesquels en fait on s'intéresse d'abord à la personnalité du joueur et ensuite seulement au style de tennis qui en découle. Donc voilà, pour finir sa carrière de Kermadec avec son film, celui sur John McEnroe, sorti en 1985. Alors à cette époque, donc en 84 quand c'est tourné, McEnroe est numéro 1 mondial depuis 4 ans, à l'apogée de sa carrière, et vraiment là, c'est censé être sa victoire à Roland-Garros face à Ivan Lendl. McEnroe a tout pour lui, il est censé être imbattable, c'est donc le meilleur joueur de tous les temps, et évidemment le meilleur sujet pour comprendre comment bien jouer.
Dans la gamme des coups joués au-delà de la ligne de fond, la violence n'est jamais son fort, mais la variété. Et sa défense élastique n'est jamais que provisoire. Il guette toujours la balle assez courte pour lui permettre de donner sa mesure. Ce souci de varier la cadence et les effets dans les échanges de fond de court est particulièrement sensible en revers, où il alterne presque systématiquement revers coupé avec revers lifté, sans qu'il s'agisse nécessairement de situations de jeu différentes. Ce mélange est un témoignage supplémentaire de l'attention qu'il porte à chaque coup sans jamais se laisser aller à tomber dans la facilité d'un mouvement stéréotypé. C'est probablement là un des germes du sentiment d'insécurité qu'il procure à ses adversaires.
Mais, Joy, ce film va à l'encontre de l'image de John McEnroe.
Oui, alors bon, on voit bien quand même McEnroe discuter un point pendant une bonne minute avec l'arbitre. On le voit bien hurler sur les spectateurs, demander aux journalistes de se barrer, tout ça. La caricature du Big Mac hein, que l'on connaît, excessif, menaçant, râleur et agaçant. Sauf qu'en fait, ce que ce documentaire met en avant, c'est le fait que ça n'a jamais été une posture du gaucher américain. McEnroe ne fait pas semblant, il ne fait pas le show. Il ne sait pas se contrôler ou se mettre en scène. Et vous le verrez, il déteste vraiment l'entraînement. Et les séances photos, c'est très dur pour lui tout ça.
Alors l'Empire de la Perfection n'est pas un film donc, sur McEnroe, en tout cas pas en tant qu'homme. Non. C'est vraiment un documentaire sur la façon dont on filme le sport.
Ouais, franchement, j'avais jamais vu de documentaire qui ressemble à ça. C'est-à-dire qui interroge à la fois des notions sportives, historiques, philosophiques et cinématographiques. C'est vraiment hyper complet. L'Empire de la Perfection aurait pu être sous-titré comment filmer le tennis, hein, ou en quoi tennis et cinéma peuvent être semblables. Et une partie de la réponse, par exemple, vient de la plume de Serge Danet, hein, le journaliste de Libération, qui avait accepté un temps d'écrire dans les colonnes du magazine Tennis.
Contrairement au football ou au rugby, le tennis est fondé sur un compte à rebours relatif. La durée d'un match dépend de la capacité des joueurs à créer ce temps en plus dont ils ont besoin pour gagner, à le faire surgir au détour d'une phase de jeu.
Donc, en résumé, en fait, le point commun entre le tennis et le cinéma, c'est assez malin, c'est l'invention du temps. C'est le fait que le tennisman, en arrêtant un échange, il va se retrouver finalement dans la position du metteur en scène qui dirait couper. Voilà. Et le joueur décide ensuite de se replacer et on reprend. Et alors là, par exemple, dans l'Empire de la Perfection, grâce aux ellipses de la finale à Roland-Garros entre McEnroe et Lendl, qui clôt le documentaire, notre regard sur ce match qui est légendaire hein, n'est plus du tout le même. On se focalise plus sur le résultat, mais sur la dramaturgie. Les points deviennent anecdotiques et seul reste l'histoire.
Oui, c'est un film absolument passionnant sur le cinéma et le sport. L'Empire de la Perfection de Julien Farreau sortira donc après-demain en DVD. Et vous l'aurez compris, cinéphile et néophyte, en le regardant, vous verrez le sport très différemment.
Exactement.
Merci beaucoup, Joy. À la semaine prochaine.
Bye.
Salut. Et voilà, cette 24e émission de la saison 4 a été coachée ce soir par H2M, évidemment, l'incontournable Henri-Marc Mutel. Merci Marco, assisté ce soir à la technique de Fabrice Desmaz. Merci à lui. Merci à toute l'équipe de L'Œil du Tigre, à Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi. Et on se retrouve la semaine prochaine avec l'histoire d'un sport ancestral, un art martial né sur l'île d'Okinawa au Japon. Que savez-vous du karaté ? Eh bien, on en cause entre autres avec Laurence Fischer, triple championne du monde de karaté. D'ici là, passez une excellente soirée et une excellente semaine. On vous attend dimanche prochain dans L'Œil du Tigre à 18h sur Inter. Salut et fraternité !